Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et motbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
J'ai eu un cancer de la prostate, un cancer d'estomac, et j'ai réussi à les éliminer. Et puis j'ai eu une crise cardiaque. Je me suis réveillé à l'hôpital, les bras en croix. L'infirmière dit, vous savez, vous aviez de l'air jaune. Je suis content d'être parmi vous. Bonjour, je m'appelle Tatou le Baronien. Bienvenue dans le parcours Balado, cuisine ton quartier, à Anjou. Moi, je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, en Égypte. En plein bombardement, ma mère a accouché, puis j'étais perdu. Ils ne savaient même pas si j'étais vivant quelque part. Puis mon grand-père m'a sauvé des décombres après 6 jours. Moi, en venant au Canada, j'étais polyglotte. Je parle le français, l'anglais, l'italien, l'arabe et l'arménien. L'arménien, je l'ai appris à la maison, c'était un vrai cauchemar pour moi, c'était comme une punition, parce qu'en été, mon père payait un curé pour venir m'enseigner l'arménien écrit et parlé. Parce que la famille baronienne, c'était une famille religieuse qui, pendant la Première Guerre mondiale, tous les grands-parents ont été exterminés par les Turcs. Et ça a été réellement catastrophique parce que mon grand-père a pu s'en échapper, mais pas pour longtemps, parce que lui aussi a été... Il a fait sortir la famille de la Turquie à Port Saïd, jusqu'à Port Saïd, puis en retournant faire des emplettes en Turquie, il s'est fait poigner, il s'est fait tuer. Puis là, j'ai jamais connu mon grand-père paternel, mais j'ai connu mon grand-père maternel. Parce que mon père, lui, il est né à Alexandrie, en Égypte, lui aussi. Il n'était pas né lorsque mon grand-père a amené toute sa famille. Elle était nombreuse, la famille. Ils sont allés s'installer à Alexandrie. Et puis mon père, lui, d'Alexandrie, en vieillissant, il a, comment dirais-je, essayé de faire sa vie. Il a été même aussi à l'école des frères Sainte-Famille, où il a parcouru toutes ses études là-bas. Et puis après avoir fini ses études, il s'est engagé à travailler, à réparer les machines à écrire chez Remington, au Caire. Puis de là, ben, ils l'ont gradué, puis ils l'ont mis comme gérant de service à Port Saïd. Puis là, ma mère avait à peine 12 ans lorsqu'elle s'est mariée. Mon père en avait une vingtaine d'années. On est 4 enfants dans la famille, je suis l'aîné de tous les petits-enfants à date. En 1956, la France et l'Angleterre ont décidé d'attaquer l'Égypte avec Israël. Nasser a bloqué le canal en dynamitant tous les bateaux devant notre maison. C'était le chaos total. Et puis pour sortir dans la rue, il fallait se faire étamper. Et puis les militaires, là, ils tiraient à vue. Et puis c'était réellement un massacre. Ils ont détruit Port Saïd. Elle a été rebâtie. Et puis, entre-temps, ils ont confisqué les écoles. Les écoles françaises n'avaient plus le droit d'y aller. Les Européens n'avaient plus le droit de résidence. Tout le monde devait partir. Mais vu que mon père y avait la nationalité obtenue quelques années auparavant, la nationalité égyptienne, on est resté. Mais moi, que je suis né en Égypte et que mon grand-père soit né en Turquie, je n'avais pas droit d'avoir des droits comme mon père. Je n'avais même pas le droit de faire le service militaire. En 57, j'avais déjà presque fini mon collège. Je devais aller en France pour faire mes études. Ma grand-mère a commencé à crier, à pleurer. Il dit, tu t'en vas en France, on va plus te voir. Et vu que mon père, lui, était le représentant de la compagnie Olivetti pour toute la canal de Suez et le fournisseur officiel de Sa Majesté la Reine d'Angleterre pour l'armée britannique. Alors, je me suis tourné vers mon père et dit, qu'est-ce que tu fais? Me trouves-tu une école où aller? Il dit, oui, je t'envoie en Italie. Tu as une bourse d'études offerte. Tu n'as rien, rien à dépenser, tu vas faire tes études, tu vas devenir ingénieur, tu vas pouvoir réparer les machines à écrire, les machines à calculer, comptable. D'accord. En 1957, j'ai fait mes bagages, ma mère a fait mes bagages, puis de Port Saïd, j'ai pris le bateau, je suis allé à Naples. Il avait déjà contacté et arrangé mon séjour là-bas pendant 3 ans. J'ai fait mon temps là, puis j'ai tout appris, tout ça. Puis une fois terminé, ils m'ont dit, OK, là présentement, tu es choisi pour aller en Amérique du Sud. Alors, j'ai dit, je peux pas. Je n'ai pas vu mes parents, ça fait 3 ans. Je vais aller pour 15 jours les voir. Ils m'ont accordé les 15 jours. Mais les 15 jours sont devenus 4 ans. J'avais perdu mon poste à Bogota. Je leur ai écrit que je suis prêt. Ils m'ont dit qu'ils ont une place à Montréal. Correct. Envoyez-moi les détails, puis je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Entre-temps, moi, je vais faire les démarches pour émigrer. Mais j'étais militaire. Parce que lorsque je suis parti en vacances voir mes parents, j'étais enrôlé militaire. Et je faisais partie d'une garnison qui éclaire, qui détruisait tout. Mais j'avais à peine fini mon service militaire. Mon commandant en chef dit, qu'est-ce que tu vas faire dehors? T'as fini ton... Moi, je dis, je vais travailler avec mon père. J'ai essayé d'avoir mon démit du service militaire, être désengagé du service militaire. J'ai payé pas mal d'argent pour ça. Et puis ce papier-là, je l'ai fait parvenir à mes supérieurs. Ils ont dit que c'est falsifié. Mais j'étais quand même en service commandé de temps à autre. Et le jour que je devais partir, le commandant en chef il appelle mon père et dit « Ton fils a des problèmes. Il a déjà eu 3 cours martiaux, le 4e ne le lâchera pas. Il donne 24 heures pour qu'il disparaisse. Je ne veux pas la voir. » Alors, en 24 heures, mon père a préparé mes bagages, mon billet d'avion. Je suis allé au Caire, je me suis caché. Arrivé à l'aéroport, mon commandant en chef était là pour m'arrêter. Pour me laisser partir, là, j'ai dû le corrompre. Il m'a amené jusqu'à l'avion avec 4 gardes. J'avais assez peur de ne pas arriver. Il m'a dit à tout, je te donne une recommandation, je ne reviens plus jamais. Ton nom est dans le tiroir et tu sais qu'est-ce qui arrive. Je n'ai jamais pu retourner. C'était le 14 décembre 1964 que j'ai quitté l'Égypte. Je suis allé en Europe, en Hollande, à Amsterdam. À Montréal, je suis arrivé le 2 janvier 1965. Lorsque je suis arrivé ici, j'avais déjà mon emploi. Le 6 janvier, j'appelle à la compagnie Underwood Olivetti. Ils m'ont dit, yes, we wait for you. Je suis rentré avec un très bon salaire, j'ai travaillé, j'ai démontré mes qualités de travail, tout ce qu'on m'avait appris à l'école, je les ai utilisés là-bas. Ils n'ont pas aimé ça. Ils m'ont dit, tu es malhonnête. Pourquoi? Parce que je ramassais les contrats et j'avais tous les contrats signés. Parce que j'avais la façon de parler pour pouvoir convaincre la personne de signer un contrat de service pour les machines à écrire ou les machines à calculer. J'ai dû démissionner parce que, il disait, si tu veux rester ici et avoir le poste de directeur, il faut que tu nous donnes 3 mois de ton salaire. Il dit non, ce n'est pas dans mes moyens de faire ça. J'étais rentré au mois de janvier, au mois de décembre, 31 décembre, il y avait plein de tempêtes, quitté. Je suis resté 2 mois à la maison et après ça, j'ai trouvé un autre travail parce qu'entre-temps, ben, où j'étais, j'ai appris la ville, j'ai eu des contacts, j'ai rencontré des personnes de Port Saïd qui m'ont aidé à faire mon chemin et à rencontrer et comment me comporter. Et le plus beau, celui qui m'a aidé, était mon voisin à Port Saïd. Un bon jour, en rentrant chez un client, il y a une dame qui me dit, j'ai une brave fille pour toi. Il m'a donné l'adresse de ma femme. Elle est québécoise, elle vient du Témiscamingue, de Saint-Philippe-du-Buisson. Deux mois prochains, on va faire 48 ans de mariage. Et deux enfants, un garçon qui est docteur en linguistique, il enseigne ici à Chicoutimi, et ma fille qui est administratrice ici à Télémétropole. Et puis elle a travaillé pour moi parce que une fois que j'avais quitté la compagnie, j'ai fait d'autres compagnies où j'ai appris des petites affaires en à côté, puis je me suis spécialisé en électronique. Et en me spécialisant en électronique, la compagnie où j'étais rendu gérant de service à Montréal dans une compagnie de duplicateurs à alcool, mais c'était pour la comptabilité. Dans un parc, je préfère aller à un parc qui est au bord de l'eau, comme Bellerive. Je vais là, puis il y a l'air marin qui est sain, tandis que dans un parc, il y a beaucoup trop de monde. Merci à tout le monde de m'avoir écouté et je souhaite à tout le monde d'être calme dans la vie, ne pas être violent, être toujours disponible lorsqu'on en demande aux autres et ne pas faire à sa tête, toujours sous-peser avant de faire quoi que ce soit, parce que dans la vie, c'est pas tout ce qu'on a qui nous appartient qui fait la vie, c'est le monde entier font partie de notre vie. Et ça, c'est mon principe à moi. Et puis, c'est la fraternisation, c'est l'amour fraternel, l'amour familial. Et il faut pas qu'on le néglige de ce côté-là. Merci.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.